Voici le troisième épisode de notre série dédiée à l'année 1964. Au menu, la traque d'un tueur d'enfants en direct à Europe numéro 1. La mort de Maurice Thorez, le père du communisme français. Un petit malin qui veut commercialiser de l'eau de Lourdes. Et Johnny Hallyday qui joue les loubards en vrai.
1964, on de la traconte sur Europe 1.
Le 26 mai 1964 à 17h45, le petit Luc Taron, 10 ans, disparaît. Il habite dans le 8e arrondissement de Paris et juste avant sa disparition, il a été pris par sa mère en train de lui voler de l'argent dans son portefeuille.
À ce moment-là, il a été surpris. Elle l'a vu rougir comme elle ne l'a jamais vu rougir de sa vie, n'est-ce pas? Et immédiatement, il l'a détalé. À un moment, elle n'était pas habillée, elle n'était pas chaussée, rien du tout, elle n'a pas pu courir derrière, n'est-ce pas? Et comme une ou deux fois, qu'un classement insuffisant qu'il avait eu à l'école, il avait fait une fugue d'une heure ou deux, nous avons pensé qu'il allait faire la même chose.
Il avait son petit blouson marron clair, son petit polo bleu marine en tissu éponge, sa petite culotte en terre gale beige à petites rayures, n'est-ce pas? Ses petites sockettes rouges et ses chaussures marron. Il avait les cheveux qui revenaient comme ça sur le devant, je lui faisait revenir un petit peu sur le fond. Et ils avaient justement, la coupe avait besoin d'être rafraîchie. C'est un enfant qui a un petit visage, on peut pas dire maigre, très mignon, très agréable à regarder. Pas rouge de teint, mais rose, vous savez, un enfant qui se porte bien. Les yeux noisettes, de beaux yeux, grands.
Est-il une attitude particulière susceptible de se faire remarquer?
Je veux dire qu'il était bruyant et qu'il criait facilement sur la voie publique. Il aimait imiter le train, il poussait des cris des fois un peu aigus, enfin il était plutôt du genre exubérant.
On retrouve le cadavre du petit Luc, deux jours plus tard, dans les bois de Verrières, à 22 km de chez lui. Il a été étranglé. Aucune piste. Jusqu'à un coup de fil anonyme à la rédaction d'Europe numéro 1.
Je vous téléphone au sujet du petit Luc. Allez rue de Marignan. Vous trouverez un message important sur le pare-brise d'une voiture.
À la rédaction d'Europe numéro 1, on n'y croit pas. Encore un doudingue. Mais 10 minutes plus tard, nouvel appel. La même voix excitée.
Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore récupéré le message? Allez d'urgence au numéro 3 de la rue de Marignan.
Alors, Christian Barbier, le grand reporter de la station, file rue de Marignan.
Ok, bon, c'est un dingue. Je vous l'ai dit, hein, pourquoi c'est moi qui me suis tapé tous les pare-brises de la rue? Vous auriez pu envoyer, je sais pas moi, un stagiaire.
Alors, vous avez trouvé le message?
Non, c'est bon. Arrêtez de vous foutre de nous, s'il vous plaît.
En fait, il y avait bien un message. Ben, c'est un couple qu'il a trouvé sur sa voiture. Il l'a immédiatement transmis à la police. Et il y en aura d'autres, envoyés au journal Paris Presse et à la police. Et tous sont signés l'étrangleur. Et bizarrement, il ne prend jamais contact avec les parents du petit Luc Taron.
Je crois que le type cherche à faire peur et toujours à aiguiller sur une fausse piste, parce que moi, dans mon idée, il n'a pas été de rançon. Il n'a pas jamais été question dans son esprit de rançon. On n'enlève pas un enfant d'abord sans se renseigner si les parents ont les moyens de payer une rançon. Quand il a enlevé Luc, il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, Luc. Je suis certain que c'est quelqu'un qui a pris Luc parce qu'il l'a trouvé là et qu'il a eu l'occasion de le prendre. Ça aurait été un autre enfant. C'est un autre enfant qui aurait eu son sort.
L'assassin prétend avoir hier assisté aux obsèques du petit Luc. Est-ce que vous avez vu dans la foule quelqu'un que vous ne connaissiez pas?
Je n'ai distingué ni aperçu personne aux obsèques. J'avais mon esprit à un tout autre sujet.
Et vous, personnellement, monsieur Taron, vous y croyez à ce fou qui se manifeste? Vous croyez que c'est vraiment l'assassin de votre fils?
Je pense que c'est l'assassin de mon fils, mais de là à dire qu'il est fou, rien ne me permet de l'affirmer.
Aujourd'hui, l'étrangleur, ce monstre qui écrit mais qui ne se montre pas, s'est manifesté 3 fois. Il a envoyé 3 lettres, dont une à Europe numéro 1. 3 lettres toutes aussi menaçantes les unes que les autres. Son dernier message, avant la deuxième opération, dit-il, c'est-à-dire avant son deuxième meurtre. Ici, à la première brigade, les policiers commencent vraiment à craindre un deuxième assassinat. Il semble bien en effet que l'auteur de ces lettres soit bien l'assassin, d'autant que dans l'un de ses messages, celui adressé à Paris Presse, il donne un détail de plus, un détail troublant. Il a fait un petit dessin, un petit schéma atroce qui représente le corps de Luc allongé au pied d'un arbre. Cet arbre, il le représente par une croix. Et l'assassin se dessine lui-même. Il a même poussé la cruauté jusqu'à dessiner ses deux mains serrant la gorge du petit Luc Taron. Et en légende, le monstre a écrit sous son dessin « Les pieds du petit Luc étaient plus près de l'arbre l'arbre que la tête. Et c'est vrai, la police a vérifié. Le corps était bien placé, comme le dit l'étrangleur.
Avec ces nouveaux messages de l'étrangleur, la psychose s'installe aux abords des écoles parisiennes.
Madame, vous avez un petit garçon.
Oui.
Vous allez toujours le chercher à la sortie
d'école?
Ah oui,
toujours, toujours.
Est-ce qu'en ce moment, vous avez peur pour l'étrangleur?
Ah oui, sûrement.
Vous ne laisseriez pas sortir seul?
Oh non, 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 pas du tout.
Si vous deviez vous absenter, que vous ne puissiez pas aller le chercher, comment feriez-vous?
J'enverrais quelqu'un le chercher.
Mais
ah oui, mais je ne le laisserais pas sortir tout seul.
En ce moment, non. Spécialement?
Ah oui, oui, mais quand même en, avant, je vais toujours chercher le petit.
Vous avez peur des raptes d'enfants?
Ah oui, oh, oui, beaucoup. Ça, il faut faire attention, hein. Parce que de ce moment, c'est pas drôle.
Madame, votre petit garçon sort de l'école maintenant?
Oui,
Vous allez le chercher toujours?
Toujours, oui.
Est-ce qu'en ce moment, vous avez peur à cause des lettres de l'étrangleur?
Mais oui, sûrement, oui.
Vous en avez peur?
Oui. Alors, on va l'amener et on va le chercher.
Si vous deviez vous absenter, comment feriez-vous?
Ah, ben j'enverrai la concierge le chercher, ou quelqu'un de la famille.
Vous ne laisseriez absolument pas sortir
ah,
seul?
Ah non, 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 pas du tout.
Vous savez que c'est dans le 7e arrondissement, rue Claire, que le...
Mais oui, je sais, oui.
Qu'est-ce que ça vous a fait, cette nouvelle?
Écoutez, ça nous a tous surpris, hein.
Vous avez tout de suite eu peur pour les petits?
Mais oui, ça sûrement, oui. C'est pour ça que quand on sort de la maison, tout de suite, on est là.
Et si quelqu'un venait chercher
un
petit garçon, vous pensez qu'il suivrait quelqu'un qu'il ne connaît pas?
Ah non, il ne suivrait pas. Non.
Vous lui avez bien fait la leçon.
Oh oui, hein, qu'on a fait la leçon, hein.
Après 10 jours d'enquête, la brigade criminelle de Paris interpelle un suspect. Le préfet de Paris n'est pas peu fier du travail de ses hommes.
Nos enquêteurs ont réussi à identifier, à démasquer, à arrêter et à obtenir les aveux de celui qui s'est nommé dans toutes ses lettres l'étrangleur, c'est-à-dire de l'assassin du jeune Luc Taron. Nous n'avions aucun doute sur le fait que celui qui signait l'étrangleur était bien l'assassin. Il avait donné de tels détails sur la façon dont le crime avait été commis, qui corroborait ce que l'enquête avait appris. À 9h20, pressé de questions, il finit par avouer qu'il était bien l'auteur du crime commis dans la nuit du 26 au 27 mai, et il en donna l'explication qui correspond très exactement à ce qu'il a relaté au travers des nombreuses correspondances adressées notamment aux journaux.
Madame Taron, l'étrangleur vient d'être arrêté.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris cette nouvelle?
Ça m'a fait un choc terrible et j'avais surtout très peur d'être déçue. Je suis là, je ne sais plus quoi faire, vous comprenez? Et pour nous maintenant, les jours sont tellement laids. Ça ne fera rien pour mon petit homme, mais de penser qu'il n'aurait jamais été cet enfant vengé comme beaucoup d'enfants, c'était atroce.
L'étrangleur s'appelle Lucien Léger. Il a 27 ans et il est élève infirmier en région parisienne. Et comme d'habitude, son entourage n'a rien vu venir.
Il était bizarre, on attribuait ça parce que sa femme était malade. Triste pour le moment, quoi. Autrement, question de comportement avec les malades, il était toujours très bien. Très bon élève, oui.
Il n'était pas de temps en temps absent ces derniers temps?
Ah non, non, jamais, jamais.
Et vous a-t-il parlé, par exemple, de l'étrangleur?
Oui, il en parlait dans le service, parce que quand ils écoutaient la radio, tout ça, ils disaient « je ne le trouveront jamais » ou des trucs comme ça, mais moi, vous savez, je ne suis pas dans le service tout le temps.
Madame, vous étiez la voisine de Lucien Léger.
Et moi, je n'ai jamais vu rien de remarquable sur cet homme. Hein. Il rentrait tard la nuit, il partait de bonne heure, je ne sais pas à quelle heure le matin, enfin, je l'entendais partir. Comme vu son travail, vu qu'il était infirmier, pour moi, ça ne me paraissait pas bizarre.
Avec les autres locataires de l'hôtel, comment il se conduisait? Il vous adressait la parole quelquefois?
Il ne s'est jamais conduit mal, certainement, parce que moi, il ne m'a jamais dit rien. Jamais. Il rentrait, il vous croisait dans l'escalier, des fois, il vous disait bonjour, des fois, il ne vous disait pas bonjour.
Est-ce qu'il parlait avec les gens?
Jamais.
Ça faisait longtemps qu'il habitait cet hôtel?
Certainement, parce que moi, il y a eu 3 ans, mois de juillet, que j'habite l'hôtel, et je l'ai toujours connu, j'ai toujours vu. Dans le début que j'étais ici, j'ai vu sa femme. Maintenant, elle était malade, sa femme. C'est la seule fois qu'il m'a parlé, il m'a dit qu'il avait pris une ambulance pour aller la rechercher parce que sa femme était malade.
Il avait plutôt l'air triste, un homme, je vous dis, qui inspirait la pitié du fait que sa femme avait été malade. Il nous avait raconté qu'elle avait fait une dépression nerveuse, n'est-ce pas, et que, bien entendu, il était très ennuyé, ça ne se guérissait pas, voilà. C'est un monsieur qui ne riait jamais, qui avait plutôt le regard triste, quoi, je vous dis.
Un farouche, un solitaire un peu, non?
Solitaire plutôt, farouche, non, pas précisément.
Donc il vous a quand même parlé de sa femme, il vous a parlé un peu de sa vie privée?
Ah, oui, même à chaque fois qu'il venait, ma femme qu'il connaissait, c'est presque toujours elle qu'il servait, et lui demandait à chaque fois des nouvelles de sa femme, comment ça allait, etc.
Est-ce qu'il n'en voulait pas aux gens?
Non, non. Pour moi personnellement, non, je n'ai pas entendu prononcer ces paroles, et je n'ai pas l'impression que... qu'il avait un homme révolté contre la société, non?
Pas aigri.
aigri. Je vous dis, le comportement de cet individu, on le mettait sur le dos de la maladie de sa femme, n'est-ce pas? Et aigri, non, mais enfin un homme chagriné.
Évidemment, toute la presse est à la sortie du 36 quai des Orfèvres pour voir le monstre. Et les journalistes ne sont pas seuls.
Il est exactement 8h15 et Lucien Léger sort dans une voiture de la police de la première brigade mobile et s'en va vers Versailles. Il sourit aux photographes qui le prennent et lui chatine
de la main.
Environ 300 personnes s'agitent. Madame,
c'est les
tracteurs. Oui, c'est les
tracteurs. Tout seul.
Depuis quelle heure vous êtes là?
On est là pour moi depuis 2 heures.
Lucien Léger est emmené chez le juge en vue de son inculpation. Et là encore, c'est la couille.
Versailles, ce soir, s'est donné rendez-vous devant le palais de justice. Un millier de personnes attendaient Lucien Léger lorsqu'il est arrivé au palais. J'ai vu alors un spectacle incroyable. Des hommes se précipitaient sur lui pour le lyncher. Des femmes tenaient d'un bras leur bébé et de l'autre lui tapaient sur la tête. Des coups pleuvaient de toutes parts et les policiers ont été obligés de charger la foule pour éviter le lynchage. Maintenant, Lucien Léger est entendu par le juge d'instruction Seligman. Mais quelques 500 personnes attendent sa sortie, lorsqu'on le conduira au dépôt.
Mais chez le juge d'instruction, coup de théâtre.
Lucien Léger n'a toujours pas quitté le palais de justice de Versailles. Écoutez, je vous le rappelle, 16h, lorsque Léger est entré dans le bureau du juge Seligman, en compagnie de son avocat, Maître Garçon. Selon les informations que nous avons pu recueillir ici, dans les couloirs du palais de justice, Lucien Léger est revenu sur ses aveux. Il nie avoir assassiné Luc Taron. En revanche, il reconnaît toujours être l'auteur des 56 messages signés l'étrangleur. Je ne pense pas tout de même qu'il faille attacher trop d'importance à ces virements de situation, car peut-être tout à l'heure, en sortant du palais de justice, il aura reconnu une nouvelle fois être l'assassin de Luc. Lucien Léger est sans aucun doute un garçon qui n'a pas toute sa lucidité. Hier, il a fait une véritable crise de démence dans sa cellule. Aujourd'hui, et plus on ira, les enquêteurs, les juges s'apercevront que Lucien Léger est un garçon d'une instabilité d'esprit croissante et dangereuse. Alors, on peut se demander quelle valeur il faut donner aux déclarations de ce fou qui, suivant les heures et son humeur, s'accuse ou nie avoir tué Luc Taron. Il ne faut pas oublier non plus qu'il est accusé de 4 autres meurtres. Meurtres qui n'ont jamais existé que dans la tête de Lucien Léger. Cependant, les enquêteurs et les avocats restent persuadés que Lucien Léger est bien l'assassin de Luc. Léger a donné trop de détails, disent-ils, et cela ne s'invente pas.
2 ans plus tard, lors de son procès, Lucien Léger prétend toujours qu'il est innocent. Verdict, il échappe à la peine de mort, mais il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il va passer 41 années en prison.
Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là, maman. 5 Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras, en lui chantant Ave Maria. Souvenir autour de toi, toi, la maman, y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi, la maman, que jamais, jamais, jamais.
Vous l'avez reconnu, évidemment, la maman de Charles Aznavour.
1964, on de la traconte sur Europe 1.
En 1964, le Parti communiste est l'un des plus grands partis politiques de France. Il a fini deuxième à l'élection présidentielle de 58, juste derrière le général de Gaulle. Et depuis 34 ans, c'est Maurice Thorez qui incarne le parti. Mais le 11 juillet 1964, Maurice Thorez meurt alors qu'il part en vacances en URSS.
C'est une perte immense. Je suis abasourdi, je viens d'apprendre la nouvelle il y a quelques instants. Je suis venu immédiatement ici au comité central. S'il y avait un rassemblement de prévu, on m'a demandé de me diriger vers ma section locale, ce que je vais faire immédiatement. C'était Maurice, le premier communiste, un militant très fort.
Pour vous, ça se résumait à Maurice?
Dans le parti, c'était Maurice. Oui.
Pour nous, ça nous représente... Enfin, c'est la mort comme si c'était un membre de notre famille. C'est une très grande perte pour nous, c'est un de nos dirigeants les plus aimés. Évidemment, vous devez comprendre que ça nous fait quelque chose.
Quel homme était-ce dans la rue, Monsieur Thorez?
C'était un camarade, un vrai homme du parti, quoi. Un camarade de la classe ouvrière.
Avant des...
C'était le meilleur camarade du parti.
Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris qu'il était mort?
Et c'est bien qu'il vient de me le dire à l'instant.
Moi, ça m'a choqué quand même, moi, ça m'a choqué.
Moi, j'ai cru que c'était une farce. Quand il a reçu les brigades d'Espagne, et il a été bousculé sur le pont d'Austerlitz, et c'est lui qui a ouvert le passage. Il a bousculé tous les flics et en est passé. Ça, c'était un homme, et je l'ai vu bien souvent. Et ça, c'est un grand camarade à nous, et c'est une grande perte pour le parti.
Le Parti communiste français fait rapatrier la dépouille de Maurice Thorez en France, et une chapelle ardente est installée à la mairie d'Ivry, dont Thorez a été le député pendant 32 ans.
Place Kossuth, la façade de l'immeuble du siège du Parti communiste français est recouverte de tentures noires. Au milieu, une grande photo de Maurice Thorez entourée de banderoles tricolores. Sur le trottoir, il y a d'immenses gerbes de fleurs venant de tous les coins de France. Et puis, comme à Ivry hier et avant-hier, des délégations défilent devant le catafalque. Silencieux, ils sont là, plusieurs centaines à attendre avant d'entrer dans le hall tendu de gris, où une dizaine d'hommes, le visage grave, montent la garde autour du cercueil. En sortant, ceux qui viennent de Saint-Denis, d'Aubervilliers, de Corrèze ou du Danemark signent comme à Ivry sur un cahier. Et puis, des gerbes de fleurs arrivent encore. Des femmes, avec de petits bouquets, les déposent sur le trottoir. Et le défilé se fait de plus en plus important. Défilé d'hommes, de femmes, de jeunes qui viennent rendre un dernier hommage à Maurice Thorez.
Le lendemain, dans les rues de Paris, une foule accompagne la dépouille de Maurice Thorez jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. Et parmi ces anonymes, il y a trois communistes de Berlin-Est qui ont réussi à se procurer de faux papiers. La presse compare cette journée au grand rassemblement de 1936 et à la fête de la libération du 25 août 44. Le Monde écrit « Comment ne pas être intrigué, impressionné, ému quand le cœur du Paris populaire se met à battre ?» et qu'une immense foule venue de tous les quartiers et de tous les faubourgs se rassemble soudain, s'étonne et s'admire d'être si nombreuses et marche d'un même pas.
De part et d'autre, de la rue Lafayette, du boulevard Magenta, des milliers et des milliers de gens sur deux, trois rangs qui regardent en silence passer le cortège. Plus loin derrière, le corps de Maurice Thorez. Son cercueil est recouvert d'un immense drapeau tricolore. Dessus, deux gerbes rouges, deux inscriptions à notre camarade Maurice. Tout de suite derrière, dans une déesse noire, Madame Jeannette Vermeer, la femme de Maurice Thorez, Monsieur Valdec Rochet, secrétaire général du Parti communiste, et sur les genoux de Madame Vermeer, la petite fille, la fille de l'un de leurs fils. À pied, tout de suite derrière cette déesse, les trois fils de Maurice Thorez.
L'année 1964. No.
What you say? There's not a man today who could take me away from my God.
Tell me more.
There's not a man today who could take me away from my God.
C'était Mary Wells, chanteuse soul de la Motown en 1964 avec My Guy.
1964, On de la raconte sur Europe 1.
Je vous raconte encore et toujours l'année 1964 et je vous ai dégoté un sacré margoulin. En mars 64, une publicité met en émoi la ville de Lourdes. Un petit malin commercialise de l'eau de Lourdes. En jouant sur la crédulité des acheteurs, car c'est de l'eau de la ville de Lourdes qu'il a mise en bouteille. Et il la vend comme de l'eau bénite. Maître Rançon est sur le coup.
On m'a mis au courant hier d'une certaine publicité parue dans la presse. Cette publicité doit toucher certainement les sanctuaires.
L'eau de Lourdes, peut-on, oui. Peut-on la vendre?
Ah non, absolument pas. Elle n'est d'ailleurs jamais vendue. Or, si l'on prétend négocier de l'eau qui ne provient pas de la source, il y a une sorte d'escroquerie, bien entendu, parce que dans l'esprit des gens, quand on parle d'eau de Lourdes, il s'agit forcément de l'eau provenant de la source.
C'est le problème de l'appellation contrôlée. Vous pouvez dire, moi j'ouvre le robinet, je mets de l'eau dans une bouteille et je peux vendre cette bouteille.
En réalité, l'eau de Lourdes, c'est l'eau de la source qui jaillit sur le domaine de la grotte, n'est-ce pas? Il est évident que dans le langage commun, lorsque l'on parle d'eau de Lourdes, on ne pense pas à l'eau qui vient des canalisations de la ville de Lourdes et qui provient de divers captages. On pense à la source qui coule sur le domaine de la grotte.
Parmi la population, y a-t-il des protestations?
Ah oui, ça a suscité une certaine émotion. D'ailleurs, j'ai vu, moi, vaguement, une publicité. C'est assez imprécis. Il n'y a pas d'adresse. Rien.
Vous ne pensez pas au canular?
Peut-être, pourquoi pas. C'est possible.
Eh bien non, ça n'est pas un canular. Un prêtre du sanctuaire de Lourdes dénonce bien sûr l'escroquerie.
Nous ne savons pas s'il y a quoi que ce soit de fondé. En tout cas, c'est entièrement défendu par l'autorité religieuse.
Mais cette eau de Lourdes, celle que boivent les habitants de Lourdes et celle dans laquelle se baignent les pèlerins, c'est la même, non?
Ah non, pas du tout. L'eau qu'utilisent les Lourdais et les pèlerins pour leur commodité usuelle, c'est une eau de source, mais qui est amenée en ville et qui vient de plus loin. L'eau de la grotte est complètement différente.
D'où vient-elle?
Alors ça, c'est une source qui coule à la grotte même. Elle sort du massif rocheux de la montagne, au lieu même de l'apparition. On en envoie dans l'univers entier, sur demande, mais seulement sont payés les frais de port et d'emballage.
Peut-on en boire?
Oui.
Y a-t-il eu déjà des miracles à la suite de la boisson de cette eau?
Oui, c'est la foi qui fait les miracles. L'eau, c'est un instrument.
Une autre histoire, maintenant, d'origine catholique, elle aussi. À 900 km de Lourdes, le curé du village de C en Varée veut rénover son église. Mais les villageois sont contre. Alors lui, il se met en grève, alors qu'on approche du week-end de Pâques. Ça fait sacrément désordre.
Monsieur le curé, avec l'aide de 2-3 paroissiens de Saint-Varais, veut dépenser des millions pour refaire notre église et surtout la transformer, chose que nous voulons absolument pas. Notre église est une des plus belles églises peut-être du département, en fait d'ancienneté. Nous voulons absolument pas qu'on la détériore. Malgré que monsieur le curé ne veut plus dire de messe, nous céderons pas car il nous est impossible de trouver les millions et malgré qu'il se trouverait par on ne sait quierce personne, jamais nous accepterons la transformation de cette église.
Madame, vous habitez Cé-en-Varais et ce matin vous n'avez pas pu aller à la messe.
Oh non, ce jour des rameaux, c'est bien triste. Les cloches n'ont pas sonné, et aucun office. Alors, avec le temps qu'il pleut, ça ajoute encore de la tristesse au pays.
Je n'ai pas retrouvé dans mes vieux grimoires la suite et la fin de cette histoire. Ça signifie sans doute que les choses ont dû s'apaiser et que c'est Envaré à retrouver rapidement et ses cloches et ses messes. Religion et anecdote toujours, en février 1964, une nonne, une dominicaine, fait un tabac dans le monde de la chanson. Elle s'appelle Jeannine Dekkers, mais tout le monde l'appelle Sœur Sourire.
Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu.
En février 64, Sœur Sourire cartonne même aux États-Unis. Son album La Nonne Chantante reste 10 semaines numéro 1. C'est une performance inégalée pour un album francophone. Et d'ailleurs, Sœur Sourire va même obtenir le Grammy Award de la meilleure chanson religieuse.
L'année 1964.
C'était Richard Anthony avec « À présent, tu peux t'en aller ».
1964, On de la raconte sur Europe 1.
En janvier 64, un jeune homme de 16 ans, Patrick, sort pour la première fois avec des copains. Direction la grande soirée de l'Olympia, où se produit Sylvie Vartan et les Beatles. L'adolescent a suffisamment d'argent de poche pour s'offrir une place à 20 francs dans une loge. Le luxe! Après le passage de Sylvie Vartan, deux hommes, deux armoires à glace, entrent dans la loge de Patrick et de ses amis. « Et toi là, le gamin, tu nous suis. Pourquoi ? Que voulez-vous ? Viens, on t'emmène voir Johnny. » Les deux gorilles traînent le moment coulisses dans la loge de Sylvie Vartan, où son compagnon Johnny Hallyday est là, effectivement, avec un aéropage de leurs amis. Et là, Patrick se fait copieusement insulté. Alors, tu n'as pas aimé le spectacle, petit con ? Pourquoi t'as lancé un projectile sur scène ? Et en plus, t'as pris une place à 20 francs. T'es vraiment un petit bourgeois de merde. Mais j'ai rien fait, moi. Et là, Patrick est passé à tabac et le gamin groggy est emmené à l'infirmerie. Le père de Patrick porte plainte contre Johnny Hallyday. Et il s'exprime sur Europe numéro 1.
Nous avons été ce matin au commissariat de police, nous avons rencontré M. Smet, et qui a reconnu les faits, il s'est excusé. Nous ne savons pas encore quelle est la seconde personne qui a frappé mon fils, mais je pense que l'affaire est en voie d'arrangement et que prochainement, ça sera un incident clos et que M. Johnny Hallyday ne recommencera plus ce genre de plaisanteries qui sont vraiment de très mauvais goût.
Il a reconnu les faits ?
Oui, au commissariat de police, il ne les a pas contestés, c'est d'ailleurs à son honneur.
Et il s'est excusé ?
Oui, il s'est excusé.
Les études de votre fils n'ont pas été perturbées.
Il a été obligé de les interrompre une huitaine de jours. Il sera peut-être obligé de les interrompre plus longtemps. C'est vraiment quelque chose d'affreux d'être attaqué par plusieurs personnes ensemble sans pouvoir se défendre. Même pour un enfant de 16 ans, même costaud, c'est tout de même quelque chose d'affreux de se trouver tout seul comme ça devant des agresseurs. Les personnes, les hommes qui sont venus le chercher dans sa loge n'ont pas contesté qu'ils sont venus le chercher, qu'ils l'ont emmené dans la loge de Sylvie Vartan. Il n'y a pas de contestation, mais l'affaire est extrêmement simple.
Et Johnny Hallyday lui-même finit par s'expliquer au micro de Jacques Ourevitch d'Europe numéro 1. Le chanteur est calme, on dirait qu'il est à confesse. Je vous ressors cet enregistrement pour la première fois depuis 1964. Et d'ailleurs, l'archiviste de l'époque ne devait pas trop aimer Johnny, parce que sur la bande magnétique, il écrit « Johnny s'est dégonflé ».
Johnny Hallyday, vous avez lu les journaux ces jours derniers ?
Oui.
Vous avez vu ce qu'on pense des récents incidents à Hallyday ?
Oui.
Est-ce que ça vous fait quelque chose ?
Oui, bien sûr, oui. Je crois qu'il pense que je suis un salaud.
Et ça vous gêne ?
Oui, certainement, oui.
Pourquoi tous ces incidents ? Comment les expliquez-vous ?
J'ai le même caractère que n'importe quel jeune de France, c'est-à-dire qui va au lycée ou qui va à l'école ou qui travaille même. Je ne suis pas un génie. J'ai le même comportement que quelqu'un qui a 20 ans.
Vous pensez donc que votre réflexe est celui d'un garçon de 20 ans ?
Oui, car j'ai 20 ans.
Est-ce que vous pensez que tous les garçons de 20 ans sont comme vous ?
Je le pense, oui.
Qu'ils réagissent de la même façon ?
Oui, car je pense que je suis... Quoique n'ayant pas été élevé par mon père et ma mère, j'ai les réactions de tous les jeunes qui ont été élevés, eux, par leur père et leur mère, et que, dans le fond, j'ai le même caractère qu'eux.
Vous expliquez votre comportement par vos 20 ans. Est-ce que vos spectateurs n'ont pas, eux, aussi 20 ans ? Est-ce que vous ne leur trouvez pas aussi, à eux, des excuses ?
Si, certainement.
Pensez-vous que vous êtes fautif dans certains des incidents qui ont eu lieu récemment ?
Oui, certainement. Je crois que je me suis emporté alors que je n'aurais pas dû m'emporter. Et puis, dans le fond, j'admets que j'ai fait des bêtises, mais je pense qu'à 20 ans, c'est grave de faire des bêtises, mais je crois que c'est quand même assez pardonnable. Et si on n'en fait pas à 20 ans, je crois qu'on n'en fera jamais.
Est-ce que vous pensez que ces incidents, ces récents incidents, ont une répercussion, ou peuvent avoir une répercussion sur votre carrière ?
Oh, certainement. Je crois que si on dit du mal de moi, et Dieu sait si on en dit pas mal, on puisse lasser les gens d'un artiste, par exemple.
C'est la dernière bagarre, Johnny Hallyday ?
J'espère bien, oui.
J'étais avec une fille qui me plaisait bien, mais j'ai dû la quitter sans attendre demain. Malgré son amour, elle ne me comprenait pas, car elle était bien trop différente de moi. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Si tant que je la vois, elle ne sait que répéter. Reviens, Johnny, reviens, viens. Johnny, reviens, viens. Johnny, reviens, oui, viens. Johnny, reviens, viens. Ah, reviens vers moi. Je l'ai retrouvée hier au soir avec mes copains. Elle me semblait changée, elle n'avait plus de chagrin. Je croyais bien qu'elle m'avait enfin oublié, mais il n'en était rien, j'ai pu le constater. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Toujours elle ne fait que répéter. Ah, reviens, ah, Johnny, reviens, viens. Ah, Johnny, reviens, oui, viens. Johnny, reviens, oui, viens. Johnny, reviens, viens. Ah, reviens vers moi.
C'était Johnny Hallyday, en 1964, avec son titre « Johnny revient », reprise du tube de Chuck Berry, « Johnny be good ». Guillaume Maury et Julien Pichenet m'aident tous les jours à écrire cette émission. Réalisée par Guillaume Vassot, la suite de notre visite privée de l'année 1964, dans le quatrième épisode d'Ondelat raconte une année.
Retrouvez Ondelat raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.